Et oui, c'est le temps de parler de psychologie sociale, les relations parasociales et l'intelligence artificielle. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui se confient à ChatGPT tous les jours. Alors bonjour, Roxane Lassablonnière.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Je rappelle que vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Je me demande des fois si elle dort la nuit, cette femme. Elle a le temps pour dormir, oui.
Évidemment.
Ben oui, je vous taquine. Alors, allons-y, on parle d'intelligence artificielle.
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Oumi Silla, une de mes étudiantes au baccalauréat à l'Université de Montréal. Donc, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, connaît une hausse fulgurante. Donc, selon Radio-Canada, en 2024, il y avait 30 % des Canadiens, soit environ une personne sur trois, qui utilisaient régulièrement l'intelligence artificielle. Puis ça représentait déjà une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. Puis en 2025, il y a une autre étude qui a été menée avec l'Université de Melbourne dans plusieurs pays, 17 pays, puis on a relevé que 66 % de la population mondiale utilise maintenant l'intelligence artificielle dans son quotidien.
Quand même, oui.
Oui, c'est quand même beaucoup, donc ça fait partie de notre vie. Il y a une montée de sa popularité. Il y a aussi d'innombrables avancées technologiques. Mais tout ça s'accompagne évidemment de conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Puis ça amène plusieurs avantages. On le voit, des fois, on parle de gains en efficacité, meilleure accessibilité, ça facilite certaines pratiques. Mais il y a aussi un envers de la médaille. Ça peut soulever des enjeux liés à l'intégrité, à la propriété intellectuelle, puis aussi à la manière dont on construit nos relations entre nous.
OK.
Est-ce que vous avez déjà vu le film R, H-E-R?
Non.
Non. Dans ce film-là, puis c'est un film de 2014, donc on remonte à plus
Quand même.
Spike Jonze raconte l'histoire d'un homme qui est sensible, solitaire, qui a vécu une rupture importante, une rupture amoureuse, puis il développe une relation amoureuse avec un programme d'intelligence artificielle. Donc, c'est une voix qui s'appelle Samantha. Puis, ce qui paraissait à ce moment-là dystopique, donc il y a 12 ans, c'est plus si loin de notre réalité actuelle.
Donc, toute interaction avec une intelligence artificielle, ça correspond-elle automatiquement à une relation parasociale?
Bien, c'est ça exactement. Pas nécessairement. Mais d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi une relation parasociale. Donc, pour vous donner un exemple, l'autre jour, je discutais avec ma voisine, puis ce qu'elle m'expliquait, c'est que sa fille de 16 ans utilise souvent l'intelligence artificielle. Puis qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se confie. Elle demande des conseils pour prendre des décisions, par exemple. Donc, sans même s'en rendre compte, elle développe des relations parasociales avec ces systèmes. Donc, une relation parasociale, c'est une connexion qu'on a à la fois qui est sociale et émotionnelle. Donc, qu'on développe avec des personnages ou des figures médiatiques. C'est un terme qui a été introduit en 1956. Donc, ça fait longtemps qu'on parle.
Ça date pas d'hier,
oui. Oui, ça date pas d'hier. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est une relation interpersonnelle, donc avec une autre personne, mais qui est imaginaire d'une certaine façon, mais qui est ressentie fortement par la personne qui le vit.
C'est un peu comme l'anthropomorphie qu'on fait avec nos animaux, quoi.
Oui, exact.
Ça ressemble un peu à ça,
oui. Ouais. Sauf que l'animal est réel, est
ouais,
avec
puis,
nous.
Oui, puis il y a une réaction de temps à autre. Ouais.
Oui, c'est ouais. Ça. Donc, exactement. Donc, Horton et son équipe de l'Université de Chicago, donc des chercheurs, utilisaient ce concept pour décrire des relations qui ont été développées avec du public, avec des personnes qui apparaissaient dans les médias. Donc, on parle ici de célébrités, des personnalités publiques. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs numériques, des gens qui tombent en amour avec leur influenceur ou qui ont le sentiment qu'ils vivent une relation. Et là, de plus en plus, on peut penser au phénomène, par exemple, comme Céline Dion, qui a une base de fans importante. Mais plus récemment, puis c'est de ce dont on parle aujourd'hui, c'est que cette théorie a été étudiée pour évaluer la relation qu'on développe avec des agents de service fondés sur l'intelligence artificielle. Donc, les travaux de ces chercheurs s'intéressent à la nature des liens qu'on développe avec ces systèmes intelligents. Donc, ici, un agent de service, c'est fondé sur l'intelligence artificielle. C'est un système qui est interactif. Donc, il y a un lien qu'on développe. Puis l'idée initiale, c'était peut-être de donner un certain soutien pour améliorer nos performances. Donc, on entre en interaction avec un dialogueur, donc un chatbot ou bien des assistants virtuels. Le cas ici de ChatGPT, donc c'est un exemple concret. ChatGPT aujourd'hui nous assiste dans plusieurs tâches. On peut préciser nos demandes, on interagit avec lui. S'il ne comprend pas, on va y expliquer. Puis souvent, l'expérience est individualisée. Donc, elle est propre à nous en fonction des interactions qu'on a eues. Donc, ça devient une expérience qui peut faciliter le fait qu'on développe une relation avec ses dialogueurs. Donc, par exemple, concrètement, hier, j'ai posé une question à ChatGPT. Puis suite à notre échange, il m'a félicité de ma bonne question, que j'avais posé une bonne question. Enfin, donc, je me suis sentie valorisée par rapport à ça.
Ah bon?
Mais, donc, c'est ce type de personnalisation qui fait en sorte qu'on peut développer une relation avec ces dialogueurs-là ou ces robots-là.
Bon, je reviens à la question que j'avais posée trop tôt. Toute interaction, donc, avec une intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, dans mon cas, moi, j'utilise Gemini.
Oui.
Mais est-ce que ça correspond automatiquement, donc, à une relation parasociale?
Pas nécessairement, parce qu'une relation parasociale émerge dans des conditions spécifiques. Par exemple, il doit y avoir un sentiment de proximité, de continuité ou bien d'engagement émotionnel. C'est un engagement qui est souvent unilatéral, ça veut dire dans un sens.
Ouais.
Donc, ça va au-delà d'un simple échange fonctionnel ou instrumental. Ça dépasse le soutien, l'aide qu'on peut avoir comme ça. Il est où le chemin, où je devrais aller, devrais-tu tourner à gauche ou à droite? C'est qu'il y a vraiment un lien sentimental, si on veut, qui se crée dans ces cas-là. Donc, autrement dit, une simple interaction qui est instrumentale, par exemple, de demander une information à un système... ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va développer une relation parasociale. Donc, si je demande à Alexa quelle température qu'il va faire demain, si je mets un habit de pluie ou pas, bien, ça reste que c'est une information qui est instrumentale, qui va m'aider dans mon quotidien, mais sans plus. Par contre, si je lui demande un conseil parce que j'ai vécu une rupture, puis je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de ça, bien là, il y a un lien, il y a un échange qui est peut-être plus profond qui pourrait se développer par rapport à ça. Donc, voilà.
Ben, on va faire une petite pause, on continue. Bon, on a le temps de reprendre notre souffle vis-à-vis ChatGPT. Donc, on vient de dire avant la pause, donc certaines conditions doivent être réunies là, avant de pouvoir dire qu'il y a un lien entre un utilisateur et une intelligence artificielle qu'on peut attribuer d'être parasocial.
Oui, exactement. Puis ce type de relation n'apparaît pas automatiquement. Évidemment, ça dépend du contexte puis aussi de la manière dont on interagit avec l'intelligence artificielle.
Alors, comment en vient-on à construire une relation parasociale avec une intelligence artificielle?
Bien, il y a certaines particularités des agents de service qui favorisent l'émergence de ce type de relation. Donc, il y a deux facteurs qui sont importants. D'abord, il y a
L'anthropomorphisme.
Exactement. Merci de m'avoir aidé.
Ah, c'est un terme que j'utilise souvent parce que je dis aux gens, moi, j'ai un chien, je suis l'humain de mon chien. Non, ce n'est pas mon enfant. Je n'ai pas de relation anthropomorphique avec mon chien.
Mais on entend souvent ça, en effet. Puis aussi, le second facteur, c'est le plaisir qu'on associe à l'usage de... Oui, exactement. Donc, lorsque l'agent est perçu comme doté de traits humains, c'est ce que vous disiez,
l'anthropomorphisme,
justement. Exactement. Puis qui procure une expérience qui est engageante ou agréable, bien, les utilisateurs sont davantage enclins à développer un lien parasocial avec lui. Donc, à l'inverse, si un agent est utilisé pour son efficacité, ça va rapidement, il n'y a pas nécessairement un sentiment de complicité qui va se développer. Donc, ça limite les chances de développer une relation qui est plus intime avec le robot, disons-le.
Tout à fait.
Ouais. Donc, il y a justement une étude de 2018 de Anne et Yang qui s'est intéressée aux relations pour lesquelles les utilisateurs continuent d'adopter et d'utiliser les assistants personnel intelligent. Ils ont sondé 300 personnes dans un questionnaire. Et puis, ils ont sondé 300 personnes dans un questionnaire, puis avaient émis l'hypothèse que l'attraction sociale allait influencer la relation. Puis c'est ce qu'ils ont trouvé dans leurs résultats. C'est vraiment quand l'intelligence artificielle ressemble à l'humain, a un discours similaire aussi à celui de l'humain, qui est agréable, bien, c'est là qu'on va favoriser que ce lien-là entre l'intelligence artificielle et nous, l'humain, va naître ou va émerger.
Alors moi, j'avoue que je n'arrive pas à me faire un lien parce que le ton de voix de Gemini me tape sur les nerfs.
Pour vrai?
Oui. Peut-être que c'est une relation anthropomorphique, finalement, il me tape sur les nerfs, ouais. Alors, ces relations parasociales sont-elles forcément problématiques ou peuvent-elles aussi avoir une valeur positive?
Bien, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence le rôle que ça peut avoir en lien avec le soutien social. Donc, il y a certains dialogueurs qui peuvent nous procurer un certain sens de soutien quand on en a moins ou qu'on en a besoin. Donc, il y a une recherche qui a été faite, une analyse thématique qualitative qui portait sur les relations qu'on a avec les utilisateurs de Replica. Donc, et les résultats indiquaient que ce dialogueur peut, entre autres, offrir un espace sécurisant, susciter des affects positifs à travers des messages encourageants et fournir un soutien informationnel. Donc, depuis 2020, l'application du dialogueur Replica propose des fonctionnalités permettant aussi de simuler une relation amoureuse avec un partenaire virtuel. Là, on dépasse le simple soutien social ou la demande de conseil. Là, on peut aussi entrer dans une relation amoureuse avec ce type de dialogueur. Puis, il y a justement un chercheur qui est au Kingsey Institute de l'Université de l'Indiana, qui est aussi professeur associé au département de sexologie à l'UQAM, Simon Dubé, qui explore les relations érotiques que peuvent être développées entre les utilisateurs et les robots. Puis ici, le robot désigne un agent artificiel qui inclut les intelligences artificielles et les dialogueurs. En anglais, on dit chatbot.
C'est ça.
Donc, j'écoutais récemment une entrevue à Radio-Canada avec Simon Dubé, où il soulignait une valeur potentielle que peuvent avoir les intelligences artificielles dans ce contexte érotique, même si ça reste encore un sujet qui est quand même assez tabou. Donc, il mentionnait notamment que ces outils robotiques peuvent contribuer à l'éducation sexuelle, surtout lorsque c'est validé par des experts.
Okay.
Donc, si ces fameux dialogueurs-là sont faits à partir de données scientifiques, il peut y avoir une réelle valeur à ça. Puis, ça peut avoir des effets bénéfiques sur les enfants, les adolescents, puis même chez les adultes qui se posent des questions sur tout ce qui entoure la sexualité, l'intimité. Mais évidemment, il faut que ce soit des informations validées et que ce soit bien encadré par des sources scientifiques.
Donc, on ne va pas se fier à l'intelligence artificielle fournie par Elon Musk.
Non, on va essayer, en effet.
Ah oui.
Puis, lorsque ces relations parasociales, ils peuvent devenir très personnels. Donc, ça peut aider certaines personnes à reprendre le contrôle de leur sexualité. Par exemple, en donnant des conseils sur comment draguer, comment être un meilleur partenaire sexuel, comment aussi communiquer nos besoins lorsque ça peut être plus difficile. Donc, ça peut être une forme d'éducation sexuelle, si on veut. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que c'est facile de tomber dans le jugement, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas nécessairement accès aux mêmes ressources ou aux mêmes espaces sécuritaires pour explorer divers aspects de notre sexualité. Donc, dans certains endroits, ça peut être tabou. Donc ici, je cite Simon Dubé qui dit « Ces technologies-là peuvent permettre une plus grande démocratisation du plaisir. » Mais ce chercheur, il spécifie aussi que les relations parasociales représentent à la fois un nouveau possible et un problème.
En effet, tout dépendant des sources qu'on utilise pour faire fonctionner cette agent de conversation ou intelligence artificielle. Cette utilisation des robots, est-ce que ça pourrait mener à davantage de solitude, par contre?
Oui, bien, c'est vraiment une bonne question. Puis il y a certains qui pourraient affirmer que la possibilité de former des liens peut, dans une certaine mesure, atténuer la solitude vécue par certaines personnes. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a certainement certains enjeux éthiques qui sont importants à considérer. Dans certains contextes, ça peut, oui, offrir une forme de soutien ou de réconfort, mais il peut aussi y avoir le potentiel, d'effet négatif sur la socialisation humaine. Il y a des gens qui pourraient en venir à substituer partiellement ou totalement leurs interactions humaines par des interactions artificielles. Puis ça soulève une question importante. Où se situe la limite entre le soutien et la dépendance émotionnelle? J'ai écouté à Radio-Canada aussi un reportage qui discutait de l'utilisation des animaux en peluche pour les enfants qui intègrent l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on veut vraiment, comme société, que nos enfants deviennent si liés à un jouet? Parce qu'ils peuvent aussi, ces jouets-là, avoir une influence chez eux. Donc, Simon Dubé mentionnait également dans son entrevue, il faut se questionner sur les indicatifs de ces entreprises technologiques. Donc, ces entreprises qui sont derrière ces intelligences artificielles, bien, elles veulent maintenir l'engagement des utilisateurs. Donc, c'est une façon d'avoir des gens qui utilisent ces services-là. Et ça ne va pas nécessairement de pair avec le bien-être des individus quand il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. Donc, tout ça pour dire que les relations avec l'intelligence artificielle, ça devient une réalité qui est de plus en plus présente, en particulier pour les nouvelles générations. Puis ça devient essentiel d'en encadrer le développement d'une manière responsable, que ce soit à travers la recherche, la sensibilisation ou même les lois. Il faut réfléchir à la place qu'on souhaite accorder à ces technologies, au rôle qu'on désire dans nos relations, à son rôle aussi dans nos relations avec les autres. La vraie question, c'est peut-être pas de savoir si ces relations sont forcément problématiques ou quelles valeurs positives il y a, mais plutôt comment choisissons-nous de les encadrer et jusqu'où sommes-nous prêts à les intégrer dans nos vies.
Ah, Roxane de la Sabrenaise, c'est toujours pertinent. J'adore comment on encadre ça. Puis malheureusement, il n'y en a pas d'encadrement beaucoup. C'est ça qui nous inquiète. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue à l'émission.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Roxane de la Sabrenaise, donc, qui est notre experte en psychologie sociale qui vient nous parler régulièrement ici, à Canal M.
Vous écoutez où?
Alors, désolé pour ça, on attendait de pouvoir faire une entrevue avec Felipe Arriagada Nunes, qui est mieux connu sous le nom de Chien Champion. Malheureusement, on a des problèmes de communication. Ça arrive dans notre monde moderne. On parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Bien, souvent, il y a des ennuis. Puis là, bien, à quelques minutes de la fin de l'émission, ça devient un petit peu impossible de régler ce problème-là. Alors, on va essayer de se reprendre. On voulait vous parler donc de cette deuxième édition de la série Carte Blanche, qui est en partenariat avec le Quartier des spectacles. Et Felipe Arriagada Nunes, lui, nous transforme donc toute cette partie du Quartier des spectacles qui nous change un peu comme un parcours où c'est son alter ego, hein, Chien Champion, qui nous fait vivre un peu ce qu'il a vécu, son héritage familial, parce qu'il est chilien d'origine, ce voyage aussi, cette immigration, sa vue du paysage montréalais, le soccer et tout ça. Alors, c'est malheureux, on aurait aimé faire l'entrevue, mais on va devoir remettre ça une autre fois parce que nous manquons de temps. Et je vais continuer d'ailleurs avec brèves. Le devoir hier, le vent tourne pour les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion, communément appelées EDI, au sein de plusieurs grandes institutions d'enseignement supérieur chez nos voisins du Sud. Après des années de mise en place systématique, de nombreuses universités états-uniennes font actuellement marche arrière en démantelant leurs programmes dédiés ou en réduisant considérablement leur budget. Ce recul s'inscrit dans un contexte de pression politique et législative croissante, particulièrement dans certains États où de nouvelles lois interdisent désormais le financement public de ces initiatives. Plusieurs observateurs notent que ce virage marque une rupture importante avec les engagements pris par le milieu académique au cours de la dernière décennie. En juin 2023, la Cour suprême des États-Unis a invalidé les programmes d'action positive pour les minorités racisées dans leurs admissions universitaires, une décision qui a servi de catalyseur à de nombreuses administrations pour réviser leurs politiques internes de diversité. Et dans l'écope de l'information hier, bien, il y a 3 ans, Jeannie Grenier pensait réaliser son rêve en achetant une ressource intermédiaire, une RI, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, c'est à Granby, en Estrie. Peu de temps après avoir aménagé, elle a constaté que les problèmes avaient déjà commencé. Toute toiture à refaire, balcon qui tombe en miettes et fenêtre qui laisse passer le froid. Ce n'est pas sans regret qu'elle lance un cri du cœur. Madame Grenier reconnaît d'emblée, elle n'a pas fait inspecter la maison avant de l'acheter. « On me disait, dit-elle, qu'il y avait des résidents et qu'il ne fallait pas les traumatiser, alors j'ai fait confiance. De plus, elle croyait que l'évaluation avait déjà été faite peu de temps avant. » Et puisque c'est gouvernemental, ajoute-t-elle, je me disais qu'elle devait être droite, cette maison-là. On m'a dit qu'il n'y avait rien de dangereux pour les usagers. Cette résidence est le premier achat immobilier de Jeannie Grenier. Les 2 autres résidences dont elle est propriétaire, elle les avait fait construire. Elle a acheté ce type de maison que sa sœur, qui vit avec un handicap, pour qu'elle puisse vivre à ses côtés. « Ma sœur est comme mon enfant, jamais je ne vais m'en séparer », ajoute-t-elle. Mme Grenier, donc, qui n'est pas certaine de la procédure, a cru que c'était indiqué sur le contrat. « On m'avait dit qu'il y avait une fenêtre à changer, une. Finalement, j'ai dû toutes les changer. Je n'avais pas le choix. Il y avait de l'air qui rentrait. Mes escaliers sont à refaire, ils sont dangereux et tout est pourri sur ma galerie. Le ciment est brisé. Ensuite, je vais redresser le ciment. Je vais faire redresser le ciment, sinon ça va couler, ça va faire comme une rivière, l'eau s'accumule. Et puis la toiture aussi est à refaire. » Alors pourtant, on mentionnait dans le contrat de vente que le toit avait été refait récemment. Jeannie Grenier ajoute qu'il manque des poutres pour soutenir le plancher au sous-sol. Ça fait que le plancher est croche. Alors c'est une situation qui place les résidents et leurs familles dans une position de grande vulnérabilité face au manque de ressources alternatives dans la région. Bien que des démarches aient été entamées auprès des instances gouvernementales pour obtenir du financement d'urgence, aucun plan de reconstruction n'est officiellement confirmé. Bien, on arrive à la fin de l'émission. Merci Mathieu Tessier pour la régie. Merci aussi à Hélène Denis qui sera de retour mardi. Moi, je reviens lundi. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Et puis, bien, demain à midi, c'est le retour de la série d'entrevues qui s'appelle Affirmation. Affirmation qui parle avec des personnalités de la diversité sexuelle et de genre. On reçoit Claudine Metcalf, une grande personne qu'on aura plaisir à découvrir. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.